Lundi le 16 décembre, avez-vous fait votre sapin? J'espère, parce qu'il ne vous reste pas grand temps. Et surtout, bienvenue à Sortie de zone, notre balado en collaboration avec les journalistes de La Presse et du 98.5. Ici Mario Langlois, avec nous aujourd'hui, Alexandre Pratt, Jérémy Rainville et Guillaume Lefrançois. Bonsoir les gars, ou bonjour les gars, peu importe, en tout cas, prenez le bonjour ou le bonsoir selon l'heure où vous nous écoutez.
Le soleil,
ça va fitter pour tous.
Excellente question, Mario. Est-ce qu'on a fait notre sapin de Noël?
Est-ce que vous avez fait
ça, là? Ça, c'est...
Je voulais trouver un point d'actualité qui nous séparait de la dernière défaite du Canadien. Le Canadien est habile là-dedans. Il donne un point de presse de Marc Bergevin à Vancouver, loin de tout le monde. Alors moi, j'ai dit, avez-vous fait votre sapin? Mais Marc Bergevin a parlé, Guillaume. On enregistre au moment où le point de presse prend à peine fin. Peut-être que tu pourrais nous résumer en sommairement, en tout cas, qu'est-ce qui a été dit et abordé comme sujet avec le DG du Canadien?
Ben, ce que je dirais, et faut pas se surprendre, mais il l'a répété, c'est ce qu'il dit depuis maintenant plusieurs années. Il ne veut pas hypothéquer l'avenir de l'équipe pour faire une transaction qui ne l'assurerait pas de toute façon de participer aux séries. Donc, bref, ce qu'il disait, c'est que finalement, je vais aller chercher n'importe qui.
Par rapport à un joueur de location qui n'aiderait pas son club à long terme.
C'est ça, exactement. Là. On pense à Taylor Hall, par exemple, même s'il n'a pas voulu nommer personne en particulier, mais bon, c'est bien sûr le premier joueur à qui on pense. Puis à quelque part, c'est pas fou non plus parce que regarde Columbus l'an passé avec tout ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés par quoi? Par deux points l'an dernier, même en allant chercher Matt Duchesne. C'est pas.
Puis à la limite, ils partaient de moins loin que le Canadien. Ils avaient déjà plus de talent que le Canadien.
C'est ça. Il y avait un meilleur noyau. Il y avait déjà tout un top 4 en défense. Ils ont été chercher Duchesne, Dezingle. Et ça fait.
On sent pas une grande, grande vague en ce moment qui réclame Fanou une. Où je la manque, la vague?
Moi, j'ai l'impression qu'on est plus en attente de savoir si le Canadien va faire les séries ou non. Ouais. Tu sais, parce qu'on a beau parler de... on veut pas hypothéquer l'avenir, on faut faire attention. Et savez-vous quoi? Moi, je respecte ça, parce que selon moi, c'est une décision... C'est logique.
Tant qu'on ne répète pas la même affaire dans 8 ans. Là,
non, mais c'est la logique. Mais à un moment donné, quand tu fais pas des séries 4 fois en 5 ans, t'as beau aimer ça, t'as beau le trouver fin, t'as beau aimer l'avenir, t'as beau penser que tout le monde qui s'en vient, ça sera les meilleurs au monde, mais c'est une business de résultats. Oui, c'est un sport spectacle, mais c'est une business de résultats. Si les résultats sont pas là, malheureusement, ça fonctionne pas.
Ben, je pense que la série 3 victoires consécutives a quand même aidé à
diminuer
un petit peu la crise.
Parce 4
que
sérieusement, ben, c'est sûr.
Non, mais sérieusement, le mettant qui en perd 2 de plus, là, je pense qu'on est en mode, on réclame un échange. Je pense, je l'ai dit aussi la semaine dernière, je pense que le voyage au complet, pas juste celui dans l'Ouest, là, les 7 prochains matchs, là, la traversée de l'Amérique, là, l'épopée Lewis and Clark du Canadien là, pour les deux prochaines semaines fera foi de tout. Si le Canadien a de la misère à sortir, mettons, avec une fiche à 500 de ce voyage-là, là, je pense que...
Je pense que ça va définir plusieurs choses au courant des prochaines semaines chez
le
Canadien.
Ben, mais ça va définir les prochaines saisons, probablement, au complet, parce que si le Canadien sort de là, une victoire, 6 défaites... je pense qu'on va commencer à parler d'échanger. Ouais. À l'inverse, s'ils sont 6-1, il n'y aura peut-être pas de mouvement.
Mais en même temps, Bergevin avait l'air de ce qu'on entendait, puis c'est conséquent avec ses gestes des dernières années, avait l'air malgré tout de rester concentré sur son objectif, sur sa ligne directrice, si on veut, qui est d'accumuler les jeunes, les espoirs, les choix, nommez ça comme vous voulez. Est-ce que sa façon de parler, ça veut dire que Jeff Molson le laisse travailler en paix? Peut-être. Ouais. En même temps, comme tu dis, s'ils reviennent avec une victoire, c'est défaite, tu dis on va parler de changement, mais le changement dont on va peut-être le plus parler, c'est peut-être justement le poste de Marc Bergevin aussi.
Oui, peut-être, mais aussi d'échanger des vétérans puis de peut-être accélérer un petit peu le processus de reconstruction.
Mais tu penses à qui? Mais garde là, Alexandre, j'aimerais ça qu'on en... Non, mais pour vrai, mais je veux juste faire le tour des autres sujets abordés par Marc Bergevin. Il a parlé de Kotkaniemi notamment.
Oui.
Il a réagi à une question sur Saku Koivu qui a d'ailleurs dit publiquement que ça aurait été bon qu'il joue une année de plus en Finlande. Il n'aime pas ça les questions qui challenge
un petit peu, Marc. J'étais là quand Koivu avait parlé, puis c'était un peu étonnant, cela dit, d'entendre un ancien capitaine qui connaît très bien le pouvoir des médias, le pouvoir des mots que tu prononces dans les médias à Montréal, dire donc qu'il n'y a pas de mal non plus à garder un joueur en Finlande une année de deux ou deux de plus, lui faire participer à des championnats du monde junior, des choses comme ça. Ce que le Canadien, évidemment, n'a pas fait avec Kotkaniemi. Alors, Bergevin a simplement répondu à Koivu là, que c'est important aussi de se fier aux gens qui sont sur
c'est
place.
C'est le bruit extérieur.
Du bruit extérieur, mais
il y a des gens sur place. Il y a rien de bon dans le bruit, puis les autres se concentrent sur ce qui se passe à l'intérieur.
Ouais,
les autres sont contents de l'avoir fait jouer dans la Ligue nationale aussi vite, et ça donne des résultats à l'an 2.
Pour l'instant, ça donne...
Qu'est-ce qu'il dit de
l'an 2? On leur dit bonne chance.
Qu'est-ce qu'il dit de l'an 2? Non, mais il a commenté l'an 2.
Il a reconnu qu'effectivement, c'était pas facile, mais c'est vrai aussi que les blessures l'ont pas aidé. combien de matchs, combien des 22 matchs qu'il a joué était-il en santé? On ne le sait pas.
Mais déjà là, en partant, tu sais, puis là, je comprends que c'est pas cette année qu'on va juger de la carrière de Kotkaniemi, mais si on l'a fait jouer alors qu'il était pas en santé dans le début de l'année,
pourquoi
un joueur de cet âge,
ouais,
c'est la question logique, c'est ça. Tu viens de dire pourquoi tu l'as fait jouer?
Ouais,
non, mais tu sais, l'histoire là-dedans, c'est brûle pas les étapes. Puis là, on sait pourquoi Kotkaniemi était là, selon moi.
Là, tu veux nous faire sentir mal, non, mais juger. Non, je parle d'eux autres.
C'est ça, mais eux manquaient de personnel et ont décidé de rentrer un jeune, le mettre au poste de centre. La deuxième année, s'il était blessé, tu le fais jouer. Mais écoute, c'est peut-être juste un manque de profondeur qu'on voit, tu sais. Et quand, tu sais, puis je sais aussi, il a parlé des transactions. Tu as parlé de ça tantôt, Guillaume, en disant, tu sais, on n'est pas une transaction près de faire les séries de fin de saison. Comment on la lit, cette phrase-là?
En fait, on n'est pas une transaction d'être assuré de participer.
Assuré, parfait.
C'est la,
comment
la
on doit lire ça? Tu sais, moi, je regardais le match contre les Red Wings de Détroit.
Oui.
T'as beau avoir un club, tu sais, le Canadien n'a pas mal travaillé dans ce match-là. On travaille, on fait la job correct, mais t'as pas de joueur qui, un soir donné où tout le monde est un peu sur cruise control, juste va faire la différence, vont sortir de là avec un but deux passes.
Mais Jérémy, c'est pas la catastrophe, mais tu serais d'accord pour dire que le Canadien, statistiquement parlant, génère pas mal d'attaques à 5 contre 5.
Ouais.
Fait que pourquoi qu'il en génère pas contre les clubs qui sont plus bas qu'eux autres au classement?
Mais écoute, parce que les Red Wings ont joué un match désespéré, honnêtement. Là. Ils ont joué tout un match de hockey.
Mais le Canadien n'a pas joué un match désespéré.
Exactement.
Donc, de chance de l'enclave. Je viens juste de me taper à game encore. Je l'ai regardé samedi. J'avais de la visite. Je voulais être sûr que j'avais rien manqué. Le nombre de chances de l'enclave, là, de proche, là, on a-tu assez d'une main? Là, on parle des 42 lancés. Puis le Canadien est l'équipe qui tire le plus souvent au filet dans toute la Ligue nationale. Puis vous regarderez, c'est drôle, les Flames de Calgary ont eu 7 victoires de suite et la statistique qui ressortait, c'est qu'il accordait plus de lancers à l'adversaire maintenant et il lançait moins souvent pendant cette période-là.
Mais des lancers de qualité.
Ben, des lancers de qualité.
Parce que, tu sais, quand t'es les Flames de Calgary puis t'as Johnny Gaudreau et Sean Monahan dans ta formation, ben, t'as deux joueurs justement qui n'ont pas besoin d'avoir 10 chances de marquer puis 15 tirs.
Ouais, mais c'est pas vrai pour toute l'année, Guillaume. C'est vrai juste pour la séquence de 7 victoires.
Oui, non, c'est ça, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que le Canadien peut jouer des matchs. Le Canadien va perdre des matchs comme il a perdu samedi où il domine au tir au but. Puis, mais il a aussi eu certaines chances de qualité. Mais, tu sais, quand je me souviens en avantage numérique, je pense que c'est Joel Armia qui a fait une passe transversale dans le bas de l'enclave, qui s'est ramassé sur la palette de qui? Ben, de Jordan Wheel. Et c'est Jordan Wheel qui a pris le tir. Puis, ben, Jordan Wheel,
bateau,
il a pogné.
À toutes les réceptions
de
passe.
Le dessus de la barre horizontale. Tu sais, si t'as un marqueur
sur
de
réception,
c'est un bon tireur.
Le point, je reviens, c'est qu'on a beau entendre la ritournelle de Marc Bergevin en disant, je ne veux pas en aucun temps sacrifier l'avenir pour aller chercher un joueur à court terme. On n'est pas une transaction près de s'assurer, d'être assuré d'être dans les séries de fin de saison. Excusez-moi, selon moi, oui, on peut être là. On peut être là du fait que si tu vas te chercher un gars qui est capable de marquer des buts, oui, on en marque chez les Canadiens, mais quand on rouvre la machine, on joue du hockey dans la rue puis on perd 6-5. Fait que tu peux pas. Tu sais que t'as un club qui doit gagner 3-2 par un, 2 buts maximum. Ce que ça veut dire, c'est que si tu joues un match serré normal, t'as pas ce joueur-là qui va faire la différence. Et c'est ce que j'ai constaté dans le match contre les Red Wings. Je me dis, t'as un Kucherov. Et je sais, il y en a pas plein de Kucherov dans la Ligue nationale. Mais c'est exemple. T'as un Kucherov, là. Tout le monde connaît un match ordinaire. Là, c'est peut-être un mauvais exemple parce que t'aimes pas bien en arrache. Mais ce gars-là va faire la différence.
On peut trouver
un
joueur hyper talentueux dans plein de clubs qui sont en bas de la barre des séries.
C'est pas
nouveau. Il y en a qui l'ont, de gros joueurs, puis ils sont en dehors du portrait pareil.
Mais je
suis pas en désaccord avec le fond de ton propos. Je veux dire, je pense que Marc Bergevin non plus est pas en désaccord avec l'idée d'améliorer son équipe. Mais tu parles-tu d'un joueur de location ou tu parles d'un gars qui vient s'intégrer à ça puis qui va être encore là dans 2-3 ans?
Écoute, le mix parfait, là, j'ai l'impression que Marc Bergevin ne le trouvera jamais. Parce que ne bouge pas, parce qu'on veut pas défaire le noyau, ça prend le joueur précis. Fait qu'à un moment donné, tu sais, à force d'attendre, tu vas sûrement passer à côté, à un moment donné. Tu dois, selon moi, tu dois faire quelque chose.
Mais
et
y a
après,
un timing,
constater.
Tu penses pas qu'il n'y a pas un timing, Jérémy?
Oui, définitivement.
Tu sais, moi, je pense pas qu'on jase, là. Je pense pas.
Mais le voyage, là, les 7 matchs à la route, là, s'ils sortent de là, puis ils ont gagné 2 matchs là-dessus, là, je peux te dire que le timing, ça sera pas vergeux.
Jérémy, ça va être très difficile, le Canadien, de faire les séries, là. Cette année, là, honnêtement,
ben,
là,
position 3 dans Division Atlantique. C'est là que ça se passe.
C'est ça. Ça sera pas le meilleur deuxième.
Mais disons que si ton plan, je sais pas c'est quoi le plan, là, ils sont partis sur un autre plan, là, la cible, je pense pas que 2019-2020, c'est le bullseye. Je pense pas que c'est cette année qu'eux autres, Jeff Molson, quand ils se parlent, ils disent, Marc, c'est notre année. Tu sais, fait je pense que ça dicte aussi le ton. Je pense que quand ils vont sentir que c'est peut-être leur année ou que là, ils peuvent Ouais. Comme il sentait quand il est allé chercher Vanek, j'imagine. T'sais, il sentait qu'il avait quelque chose dans les mains, même si c'était son héritage, là, pas ce qu'il avait vraiment tout mis en place. Mais
je pense que le point de vue de Marc Bergevin, ça reste qu'il se défend, puis d'un point de vue très, très rationnel, je le comprends. Parce que oui, comme on le dit, c'est vrai que c'est pas un joueur qui t'assure d'être en série. Puis l'autre chose aussi, c'est que, par exemple, on va dire que tu vas chercher un allié qui marque, là, un Taylor Hall, disons dans le cas extrême, ou disons un Chris Kreider, sinon. Donc un allié capable de jouer top 6 qui va... Mais en même temps, en arrière, on le sait aussi que c'est fragile en défense. Ça se peut que Ben Chiarot éventuellement manque d'essence. Ça se peut que chez Weber ralentisse un petit peu.
Ça c'est ta marotte, Guillaume.
Non, mais il y a certains joueurs quand même qui jouent peut-être au-delà de leur capacité que là, ben oui, tu peux rentrer un meilleur attaquant, mais ça se peut que ça tienne moins le coup en arrière. Donc c'est vrai que c'est pas une garantie. Cela dit, là où je rejoins un peu Jérémy sur les bienfaits, disons, de faire quelque chose, c'est le message que t'envoies à tes joueurs. Puis là, si t'es un joueur du Canadien, puis tu le sais, là, tu te bats, tu vas probablement te battre jusqu'à la fin pour une place en série. Tu vois certains soirs qui te demandent quelque chose.
Et surtout que c'est pas un sérieux top 6. Canadien n'a pas un sérieux top 6 dominant de la Ligue nationale de hockey.
Ben exact.
Or, en plus, des gars qui sont dans d'autres formations, un deuxième, troisième trio. Là, en plus, t'enlèves Jonathan Drouin, puis tu dis à tout le monde, let's go, faut continuer à gagner des matchs. Est-ce que ça a pris du temps à l'équipe de réagir pour dire, là, on n'a plus les joueurs nécessaires, faut jouer solide défensivement parce qu'on n'est plus capable d'aller chercher l'offensive qu'on avait auparavant. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que les gars, c'est pas une switch on-off, là.
C'est une équipe qui montre des signes d'immaturité. Parce que samedi, si t'as appris quelque chose de ta séquence de 8 défaites puis des défaites contre des clubs comme Détroit, sans rien enlever à la performance de Détroit, le Canadien a commencé à graffiner, un petit peu comme Pittsburgh a commencé à graffiner contre le Canadien. Il restait à peu près 10 minutes à faire en troisième période. Peut-être un peu avant, parce que Suzuki a généré quand même quelque chose de popé. Puis la pénalité de Riley Barber a vraiment casser ce qui semble être une lancée potentielle en troisième. Ça, c'était très mauvaise pénalité en zone adverse inutile. C'est pas le genre de punition qui te fait monter dans l'estime de ton coach. Mais à part ce que Suzuki génère sur cette séquence-là en avant du filet dans les cinq premières minutes de la troisième, puis t'as dit Armia, puis je revoyais le flash. Tu te souviens-tu, je pense qu'on est en deuxième, Armia dribble avec la rondelle et tente d'entrer à l'intérieur dans l'enclave. Il y a combien de joueurs du Canadien vous avez vu dans l'enclave avec la rondelle?
Gallagher,
Dano en première période.
Gallagher, Dano, il le fait. Gallagher, Armia, puis une fois de temps en temps, Cousin peut être là, devant le filet, en avantage numérique.
Mais samedi, je veux dire, là,
sinon, ça n'existe pas. Les gars, ils vont pas, là.
Fait que donc, eux autres, là, pour un peu être d'accord avec ton propos par rapport à ce qu'ils ont pas, mais ils savent ce qu'ils ont, puis ils savent comment gagner des matchs. Ils l'ont prouvé avec... Je vais paraphraser notre ami Alexandre ou je sais plus qui d'autre dans un podcast nous disait avec 7 gars de la Ligue américaine, ils n'ont gagné 4/5 contre des papilles équipes là-dedans. Fait que donc, je pense, puis je comprends que quand t'as des matchs à plus haute intensité, inconsciemment, tu vas en donner un petit peu moins à l'autre match. Veux pas, les gars regardent tout le classement. Nous autres, on se dit tous vendredi, ils vont pas échapper ça contre Détroit. Tu sais, qui dans ce vestiaire-là vendredi pense qu'ils vont perdre contre Détroit? Ben, ils l'ont perdu, perdu.
Je répète, Détroit,
moi, j'appelle ça l'immaturité plus qu'un manque de personnel.
Détroit a joué tout un match, en passant, là, a joué vraiment un gros match.
Le Canadien les a aidés à bien jouer, mais je veux rien leur enlever, Jérémy.
Oui, Détroit a joué un bon match, puis je pense que le Canadien de Montréal, puis toi, tu dis que c'est pas juste une question de manquer du personnel, je pense que c'est humain, des fois, de lever le pied, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on venait de connaître quand même un certain succès après une séquence de 8 défaites.
Aussitôt qu'il se pense bon, là,
mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir, tu sais, il faut regarder, selon moi, là, t'as Claude Julien qui a dit après le match, a parlé de Nick Suzuki en disant, hey, attendez une minute, c'est pas une rendue de vedette de la Ligue nationale. T'as des gars de la Ligue américaine qui s'en viennent. T'as des blessés qui sont là. T'as Claude Julien qui a dit, un moment donné, on cherche encore pour un défenseur. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir regarder du côté de Marc Bergevin pour dire, Marc, amène des joueurs dans cette équipe-là. Tu sais, t'as beau demander, presser le citron, puis dire, avec le jus de citron, on va faire du milkshake aux fraises, mais ça marchera pas. Ça prend des joueurs. Fait que donc, quand Marc Bergevin répète aujourd'hui en point de presse, je veux pas sacrifier l'avenir, parfait numéro un, mais présentement, c'est ton club qui paye le prix pour ça. Ton équipe, présentement, paie le prix à cause que tu n'amènes pas d'effectifs qui font en sorte de donner les outils nécessaires, entre autres, à un Claude Julien, aux vétérans qui sont là, d'être capable de bien performer. Selon moi, là, on vit sur du temps emprunté parce que t'as beau presser le citron, tu peux pas aller chercher quelque chose d'efficace avec ça.
ce que tu dis va me faire sortir de quoi que je vais l'affirmer. Je pense que je l'ai jamais affirmé aussi clairement dans les amateurs de sport. Puis je suis pas tout le temps d'accord. Je suis pas une cheerleader. Je pense que j'ai pas besoin de donner des preuves de ça. Mais sais-tu quoi? Je suis pas sûr qu'il prend tout le temps les bonnes décisions, mais je le sais qu'est-ce qu'il essaie de faire. Je crois comprendre.
Je suis d'accord.
Je crois comprendre ce qu'il essaie de faire. Je le sais pas parce qu'il m'en a révélé.
Pour le bien de l'organisation, il a raison dans
ce que je crois comprendre ce qu'il essaie de faire. Je crois comprendre pourquoi Molson l'endosse. Et c'est pour ces raisons-là que je trouve que c'est le show à côté du show ou un show de boucan de réclamer des têtes, des ci, des ça, parce qu'eux autres, ça va... Je te dis pas qu'ils vont réussir, parce qu'on fera un autre exercice tantôt, puis on comparera les joueurs de 25 ans et moins, organisation par organisation, juste dans l'Atlantique, puis on pourrait évaluer s'ils ont-tu vraiment un groupe de jeunes qui va les amener là. Mais dans ce qu'ils vivent en ce moment, je pense que ça serait dépenser des cartouches dans le vide. À moins que leur groupe actuel, avec le retour des Byron éventuellement, les tiennent dans la course. Peut-être que là, il va être tenté de donner un petit encouragement, parce que là où tu es vraiment dans le mille, c'est qu'à un moment donné, la pression publique, vous disiez ça, les gars, faut que tu donnes du nanan au public, puis peut-être à ton équipe également. Mais ça sera rien de spectaculaire, puis il faut que tu joues en premier.
C'est ça, exact. Avant de penser au public, il faut que tu penses à ton vestiaire, puis je pense qu'il y a des joueurs là-dedans qui haïraient peut-être pas ça. Nous, on le voit là, que Nick Cousins puis Jordan Wheel en avantage numérique,
c'est peut-être pas idéal.
Mais si nous, on le voit, je pense que les joueurs aussi ils le voient, puis ils en sont conscients, puis ils ont beau respecter les habiletés de leur chum, ils savent bien qu'ils sont
équipés un club à un de la Ligue nationale.
Ouais, je suis d'accord pour les joueurs, mais moi, je ne sous-estimerais pas quand même l'importance du public là-dedans. C'est quand même bien le public qui regarde les matchs. Je veux dire, ceux qui regardent les matchs payent les salaires des matchs à cause des abonnements. C'est la même chose pour les gens qui se rendent aux matchs. Une organisation qui respecte ses fans ne peut pas se permettre de tomber dans une reconstruction de 5-6 ans.
Je pense que Jeff Molson respecte ses fans, sincèrement, mais je pense que l'organisation, le DG, le coach, puis tous ceux qui sont là, eux, là, ils sont Mario, combien de fois t'en as parlé, ils sont dans leur bulle.
Non, mais Marc Bergevin m'a déjà expliqué. L'objectif.
C'est du bruit, tout ce qu'il y a à l'extérieur.
Le coach gère à court terme. T'sais, le GM gère à long terme, puis le propriétaire gère l'état de la franchise. Tout ça peut être réconciliable si c'est une super bonne équipe à court terme. Mais dès que ça casse un petit peu, c'est des objectifs qui sont pas conciliables un et l'autre. Puis à un moment donné, c'est au propriétaire de trancher, de dire, OK, qu'est-ce que je privilégie, le court terme, le long terme ou l'état de la franchise de façon générale. C'est un équilibre qui est délicat à atteindre.
Très délicat, mais s'il croit en ce que son GM fait, même s'il y a des passes difficiles à passer là-dedans, il va peut-être endurer, à moins que... Je vais faire une comparaison. Est-ce qu'on peut dire que Pierre Gauthier est un moins bon homme de hockey que Marc Bergevin? Je suis pas sûr qu'on peut dire ça.
Sincèrement, mon opinion, je pense que Pierre Gauthier est un meilleur homme de hockey que Marc Bergevin.
Ben,
c'est un gars établi dans la Ligue nationale
mais
de hockey.
Mais il a été congédié. Puis ce congédiement-là, c'était pas un congédiement de ses compétences. Là. Il est resté en très bon temps avec Jeff Molson.
J'ai une
idée de comment ça s'est fait. C'est la nomination de Connie Ward. Puis là, il fallait symboliser un changement, un nouveau proprio. Mais tu sais, dans le fond, fait que Jeff Molson procéderait-il à un autre congédiement d'opinion publique, parce que c'était ça, Gauthier, là. Gauthier, c'était vraiment un congé. Alors, ça veut dire que Marc Bergevin est encore là pour une couple d'années, boys?
Non.
OK, tu penses pas. J'ai compris d'abord.
Moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, si tu fais pas les séries cette année, ça, c'est 4 fois en 5 ans.
Tu penses que sa job est liée aux séries cette année?
OK, parfait. Admettons que je suis dans le champ gauche, et peut-être que c'est possible, là.
Ça dépend comment il est,
dans le champ gauche, OK? Si pas faire les séries de fin de saison pour le Canadien de Montréal 4 fois au courant des 5 dernières années n'est pas un problème majeur assez grand pour dire on amène un nouveau directeur général. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Ça prend quoi comme problème majeur?
C'est un bon point. Regarde, je peux pas bien.
Je sais pas ce que ça prend. Puis là, écoute, je suis peut-être dans le champ gauche, je le répète.
Moi, je pense qu'ils vont rester avec Bergevin. Dans une dynamique là, de grand patron à bras droit, là, la stabilité, ça vaut très, très cher. La loyauté, je vois pas ça. Écoute, à moins qu'ils terminent avant-dernier de la Ligue. S'ils terminent là vraiment sur la ligne, ils vont blâmer les défaites, ils vont blâmer un ou deux joueurs qui vont avoir échangé en cours de saison. Ça va tourner autour de ça. Il faudrait vraiment que le Canadien s'effondre là, solidement pour que Bergevin parte. En tout cas, avant la fin de l'année, je ne crois pas du tout.
Comment il rate.
Puis il y a quand même un gros contrat. Puis il y en a beaucoup de gros contrats.
J'ai posé une question. J'espère que je ne suis pas fatigant avec ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. En début d'année, à Marc Bergevin, ça a pas marché ton offre hostile à eau. Fait que dans le fond, on n'aura pas un meilleur club cette année, là, grosso modo. Fait que ça te tente pas de nous dire que finalement, on espère juste que les petits gars travaillent fort, qu'on continue d'incarner l'espoir, ben, puis ça sera ce que ça. C'est ça l'année, ben, là, cette année, avis, là, 2019-20. Là, entre eux autres, ben, là, ils se disent pas.
Ben, Mario, du moment que ça a pas fonctionné, Sébastien à eau, il se retrouve quand même avec un trou sur sa première ligne, là, parce que je pense que Ayo sera raté sa première ligne, puis il l'a pas remplacé. Ça me semble assez clair que c'est Marc Bergevin qui dit à tout le monde, écoutez,
J'ai un trou là.
Il y a un trou sur la première ligne, puis ben, il nous manque un joueur de 8 millions sur la première ligne.
Puis c'est le recrutement qui va nous le produire, puis je ramène la, Molson parle de 3 à 8 ans. Ouais. Fait que s'ils sont tous dans le même bateau là-dessus, nous autres, on va faire pas mal de bruit qu'ils voudront pas entendre pendant tout ce temps-là.
C'est sûr que Claude Julien n'est pas dans le même bateau, là. Claude Julien, lui, l'équipe dans 3 ans, là, c'est pas sa préoccupation.
Tu l'entends, Claude Julien, qui est pas content, là.
Non, mais voyons donc, il gère le court terme.
Tu l'entends.
Lui, il joue sa
job. Amenez-moi des joueurs.
Ben oui, évidemment.
Tu sais, c'est pas ça qu'on a présent. Puis encore là, je le dis, beaucoup de respect pour les gars présentement dans l'équipe qui travaillent corps et âme pour être capables d'aller chercher des victoires. Des fois, ils s'échappent un peu. Des fois, on les voit. Tu sais, on les a vus dans cette séquence de 8 matchs. Beaucoup de gars trichaient. Mais là, vraiment, on a resserré le jeu défensivement. On est honnête sur la patinoire. Je respecte. La seule chose, c'est moi, quand j'entends le directeur général, puis je reviens encore avec la phrase qu'il a dit dans son point de presse aujourd'hui à Vancouver, tu sais, on n'est pas une transaction près de s'assurer d'une place dans les séries de fin de saison. Je me dis, peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que ça va donner un coup de main à des gars qui en ont vraiment besoin parce que lui, Marc Bergevin, au courant des dernières années, a toujours dit, je veux pas hypothéquer l'avenir, sauf que t'as besoin d'avoir des outils. Tu veux-tu travailler? Oui, parfait. Tout le monde veut travailler. Donne-moi des outils.
C'est sûr, si tu trouves un allié pour Max Domi, par exemple, tu sais, est-ce que c'est le genre de choses qui peut aider? Là, c'est sûr, en plus, ça paraît très mal parce que là, il y a pas Drouin qui est peut-être son meilleur complice dans l'équipe. Drouin est blessé. Mais même avec Drouin, bon, de l'autre côté de Domi, c'était pas tout le temps, c'était pas tout le temps les gros chars. Donc, c'est sûr que c'est le genre de truc que tu peux régler. Puis là, tu te dis, bon, ben, j'ajoute ce joueur-là. Est-ce que je peux régler deux problèmes d'un coup, ma profondeur à l'aile et repartir Domi, peut-être?
Mais tu sais, on en revient. On travaille avec les outils qu'on a. Puis, tu sais, depuis.
T'es prêt avec toute l'année?
Hey, dans les 10 derniers matchs, le Canadien a quand même utilisé 24 attaquants et défenseurs. C'est absolument gigantesque. Mais tu sais, dans ces 24-là, juste vous dire. Olofsson, 0 points. Leskinen, 0 points. Kulak, 0 points. Barber, 0 points. Hudon, 0 points. Fleury, Pekka, Peeling, Wheel. 9 joueurs ont fait aucun point.
Mais ils occupent tous les mêmes rôles quand même. Troisième paire de défense, quatrième trio pour la plupart.
On va monter. Mais oui, depuis 10 matchs, Max Domi puis Nick Suzuki, depuis 10 matchs, aucun but. Les deux gars. Aucun but.
Suzuki, je le laisse dehors de ça parce qu'il
fabrique des jeux. Non, mais je veux dire,
c'est quand même des gars qui sont en première année. Il ne se comprendra pas bien dans 10 prochains non plus. Là.
Mais ce que je veux dire, tu sais, Lekkonen, un but. Tu sais, je veux dire, il en manque là, de la production là, dans cette équipe-là. La profondeur. Écoute, la production, ça va bien là, pour Tatar, Gallagher, Dano. Ce trio-là va bien, mais la production secondaire est nulle présentement.
En tout cas, l'avantage...
Regarde le match d'hier, il y a juste le trio de Dano qui provoque des moments en zone adverse puis des flashs individuels d'Armia de temps.
Armia, j'en parlais, qui
essayait de rentrer dans l'enclave, mais part de ça, Suzuki, flash en troisième, il y a des,
mains,
Armia, y a des très bonnes mains.
Oh,
honnêtement, là, j'ai hâte de le voir jouer avec un vrai trio.
Il y a des bonnes mains, il y a un bon lancer. Tu sais, ce gars-là avait pas nécessairement beaucoup de place avec les Jets de Winnipeg parce que le pouvoir offensif, c'est pas lui qui le détenait, puis il était même pas dans le groupe de
droite. Il y en avait deux bons à droite.
C'est ça. Donc, il y avait pas d'option. Puis lorsqu'il s'est amené avec le Canadien, il a dit, j'espère pouvoir occuper un plus grand rôle offensivement. Et là, ça commence à se traduire.
Non, mais c'est un bon coup de Marc Bergevin.
Très bon, ça.
Tu sais, je sais pas qui a dit, Guillaume, t'as dit, c'est vrai que le Canadien ne sera jamais un grand producteur de points, là, mais il y a quand même Domi, un gars avec qui travailler, Armia. Mais il prend des drôles de décisions sur la glace aussi, Domi, souvent. Écoute, il y avait une séquence en fin de troisième période, samedi, là. Le jeu s'en va en zone adverse. Lui, il s'en va en arrière des défenseurs. Il disparaît du jeu. Ça devient un 4 contre 5. Il est même plus dans la zone. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais, Todor?
Claude Julien était assez clair, là, quand même. Domi, il joue pas entre les cercles, là, dans les cercles.
Ah non.
Puis il a fait le même reproche derrière Suzuki, tu sais. Puis quand tu joues pas entre les cercles, c'est sûr que t'as moins de chances de qualité de marquer. Puis d'ailleurs, son pourcentage, là, de tir est abyssal, là. Je veux dire, l'année dernière, il était dans les bons de la ligue. Là, depuis 10 matchs, ben, il a pas marqué en 25 tirs. Fait qu'il est 0 à 25, c'est pas 0%. Mais même avant, là, il était dans les taux de 3, 4, 5%. C'est sûr que quand tu tires toujours de l'extérieur, t'en as pas de bonnes occasions de marquer.
Combien d'arrêts faciles pour Jonathan Bernier? Il y en a eu une couple de beaux arrêts, là, mais combien d'arrêts faciles dans le plastron, de l'extérieur, samedi? Fait que, tu sais, encore une fois, l'aveuglement du chiffre des lancers semble fonctionner.
On a triché aussi, parce que là, on s'est dit, on va essayer de déranger Jonathan Bernier, fait qu'on était le fauché à quelques reprises pour montrer notre grande intensité. Mais en fait, t'as pas besoin de faucher le gardien de but. T'as juste besoin de te mettre dans l'enclave, de te situer là où ça fait mal, tu sais. Comme le slogan dit, Puis là, tu es capable d'avoir des lancers de qualité.
Mais j'ai pas ça une équipe qui dérange l'autre gardien, par exemple. Je comprends ton point de tricher un petit peu, mais j'ai pas ça quand même. Puis c'est rare qu'on voit le Canadien agir comme ça. Tu sais, je pense que si je suis l'entraîneur puis que je vois les joueurs comme ça, y aller agressivement autour du gardien.
Toujours su que tu étais violent.
Déteste pas.
Je suis gardien en plus.
Parlant
de gardien de but, là.
Venez me déranger, s'il vous plaît.
Une vraie discussion de sport à Montréal qui parle pas bien de gardien de but. On passe à côté de quelque chose, on dirait. Alors, y en a-t-il ici qui croient que le CH gère mal l'utilisation de ses gardiens auxiliaires et particulièrement celle de Caden Primeau? Parce que je remarquais samedi dans la journée avant même que le Canadien joue son match en soirée qu'il y en a plusieurs qui étaient en émoi ou qui étaient dans tous leurs états parce que Primeau avait pas eu une sortie à succès avec le Rocket de Laval en après-midi. Oh. On joue dans la tête des jeunes. Ah. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'indigne aujourd'hui qu'on l'entende à sortie de zone?
Non, pas du tout.
Mais ce que je peux dire par contre, c'est que si le Canadien a beaucoup déclopé, ça veut dire conséquence directe, le Rocket de Laval, il y a beaucoup déclopé. Donc,
et le Rocket, c'est pire. Là. Je veux dire, le Rocket, c'est la liste des blessés.
Ils
peuvent ouvrir un hôpital privé sans problème.
Parfait. Donc, si on comprend le principe que Caden Primeau s'en va avec le Rocket, tu te dis, OK, le geste est noble, tu vas aller garder les buts dans la Ligue américaine parce qu'on va utiliser Price sur le voyage, tu n'auras pas le filet, va garder les buts. Mais il faut que tu sois conscient aussi que tu l'envoies dans un club qui est décimé par les blessures, qui est un peu tout croche par le temps qui court. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je le sais pas. Mais selon moi, j'irais penser.
Moi, je pense à l'âge où il y a, ça va rentrer simplement dans les expériences. Ça se trouve, puis qui réussit à leur voler une ou deux victoires, ben il va avoir.
Mais t'aurais pas aimé ça, garder sur quoi, le voyage, mettons?
Non, j'étais pas contre
le voyage avec les gars, avec Carey Price.
J'étais pas contre lui donner le voyage parce qu'effectivement, ça lui a redonné cette expérience-là, mais. Pas seulement pour l'amener justement faire le voyage.
Il fallait au moins que s'ils donnent un match. D'après moi, là, ils ont fait une projection, là, ils ont fait un horaire, puis ils ont calculé s'ils donneraient un départ. Puis probablement qu'ils en ont conclu qu'ils n'en donneraient pas. Fait que, et c'est là que je suis obligé d'être d'accord. S'ils ont décidé de ne pas y en donner, à moins qu'il y ait une contre-performance un soir
donné. Mais ça arrivera, puis ils mettront Lindgren, c'est moins grand. Mais tu sais, pensons, ce qui est vrai, ce qu'on dit. T'sais, Primeau, ça peut être déprimant de jouer avec des moins bons joueurs. Pensons aussi aux 20 autres joueurs, 19 autres joueurs dans l'équipe qui, eux, jouent avec un 5e ou 6e goaler de l'organisation en arrière. Peut-être qu'eux autres aussi ont besoin d'en avoir un joueur élite là, qui permet de hausser leur niveau de jeu. Je pense qu'on pense beaucoup au bien-être de Primeau là-dedans, mais les autres gars aussi, là, ils ont besoin de bons joueurs qui jouent avec eux puis pimper un peu leur morale. Hey, sérieux, là, c'est déprimant. Tu sais, quand t'es dans l'Américaine, tu sais que ton goaler va t'en donner 6-7 par game, là, c'est pas le fun. Là.
Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est une gestion complètement différente d'un gardien à un défenseur ou un joueur, ou je sais pas s'il y a une réflexion sur la gestion du cas de Kotkaniemi, mais j'aimerais ça qu'on puisse céder un gars à Laval qui a pas besoin de passer par le ballottage aussi facilement avec un Kotkaniemi qu'avec un Primeau ou un Leskinen ou un autre. Parce que il y en a pas de drame, là. Ces gars-là, ils sont en développement. Et quand on juge que, puis là, on semble là, se faire s'empêcher de prendre des décisions parce que c'est la fin du monde, là, le pauvre gars, il s'en remettra pas. Moi, je trouve que c'est une vraie joke.
Mario, il y en a un qui a été drafté 3e au total, puis l'autre gars, c'est un choix de 7e ronde. Puis platement, là, il y a une différence au niveau du statut social dans un organisme. C'est comme dans une entreprise.
Tant qu'ils vont gérer des statuts sociaux plutôt que des talents, là, ben, ils vont se péter le nez.
Mais tu sais, presque tout, ça fonctionne comme ça dans presque toutes les entreprises. Si tu vas chercher une vedette, c'est de télé, tu vas aller chercher une vedette dans un autre réseau. Tu ne diras pas après un mois, bon, va donc animer à 00h30.
Pourquoi? Moi, j'anime dans cette heure-là, c'est correct. Non, mais t'as raison, Mario, mais il faut se rendre compte d'une chose aussi. Si t'es un gars, exemple, là, je reviens pas avec Brady Tkachuk puis Kotkaniemi, mais si t'es un gars comme Brady Tkachuk, mettons, qui fait pas un job avec les Sénateurs d'Ottawa, tu dis, on m'a envoyé dans la Ligue américaine, Tkachuk, il fit dans la Ligue américaine de hockey. Je veux dire, Kotkaniemi, le style de jeu de la Ligue nord-américaine. Non, c'est pas pareil.
Mais non plus, il fait pas.
Il fait pas.
Il veut à Sorel, Jérémy.
Mais tu sais qu'il était déjà venu, d'ailleurs. Hein? Il avait joué contre le collégial 3. L'équipe de la Finlande avait joué à Sorel. Il est venu. Ah. Et quand il était repêché, une des seules places qu'il connaissait au Québec.
C'est Sorel.
C'est Sorel.
C'est pour ça.
Voilà. Mais tout ça pour dire, c'est que, tu sais, c'est pas propice pour lui, la Ligue américaine de hockey. C'est pas un style de jeu qui est fait pour lui.
De jouer d'un calibre où il peut l'être.
Il peut être excellent dans quelque chose.
Je pense pas qu'il va y aller, mais.
Non, mais il peut être excellent dans quelque chose de bien organisé. Dans une structure de jeu bien organisée, peut être un excellent joueur de hockey.
C'est plus facile de jouer avec des meilleurs joueurs.
Puis dans du hockey un peu croche, ça peut être un peu plus difficile. Ça, c'est mon point de vue.
Mais je pense. Ben, peut-être comme Alexandre le soulignait, peut-être. Mais là, à sa deuxième année, ça serait bizarre un peu parce les joueurs qui prêtent leur gars à l'équipe junior pour le World Junior, pour le championnat du monde, normalement, c'est un gars de première année qui vient d'être drafté. Mais là, sa deuxième année.
Il y a beaucoup de gars là, de l'année de Kotkaniemi qui vont y aller au championnat junior, notamment Rasmus Sandin, qui est un super bon défenseur. Les Leafs ont besoin d'un défenseur, là. Tyson Berry, il est sorti pour quelques semaines. Ils ont quand même décidé, je veux dire, de céder Rasmus Sandin, qui va très bien à la Ligue américaine, un point par deux matchs, à l'équipe suédoise. Ça peut arriver, mais maintenant, moi, je ne sais même pas si on va voir Kotkaniemi avant le 31 décembre. Là, je veux dire, c'est une grosse commotion. Il a été très flou, hein, Marc Bergevin, sur le moment du retour au jeu.
Mais il est sur le voyage. Quand tu as une commotion, tu souffres, tu ne prends pas l'avion. C'est une des premières choses.
Ben là, ça fait longtemps, mais il y a une différence, je pense, entre jouer et être sur un avion. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des commotions, par exemple, vont aller voir un spécialiste à l'étranger. Moi, je pense peut-être qu'ils le font pour son moral aussi. Écoute, le kid, là, depuis le début de l'année, là, il l'a pas facile. Puis tu le fais partie de l'équipe.
Ça prend beaucoup de place dans la discussion, tu remarqueras. Là. Le moral. Absolument, le moral. Mais là, c'est quoi ça, là, gérer le moral?
C'est un gros facteur, Mario. Arrête!
Non, mais il y a quelque chose qui fait qu'on jette ça à bonne affaire. Je sais pas. Là. On a peur d'affecter sa confiance. Là, on l'amène dans l'Ouest parce que
je suis pas sûr que c'est un joueur comme tous les autres. Je pense qu'il y en a là, qui ont quitté leur maison.
Annonce d'antidépresseur si vous avez le banc bientôt.
Mario, il y en a qui quittent leur maison à 12 ans puis qui s'en vont en pension en Abitibi, en Gaspésie, partout. Kotkaniemi était quand même, sauf erreur, entraîné par son père jusqu'à.
Puis il est resté chez lui.
Sa mère est venue habiter avec.
Ben en plus, c'est ça.
C'est juste dire, tous les joueurs n'ont pas eu une adolescence pareille, c'est ça. Puis je pense pas que Kotkaniemi soit au même niveau, mettons, de développement de maturité que d'autres joueurs qui, par exemple, auraient quitté leur maison à 12 ans. Là.
Francis Bouillon, qui travaille dans le développement des joueurs, est passé nous voir en studio la semaine dernière. Puis je dis pas que c'est le cas de Kotkaniemi, mais tu me rappelles ce commentaire-là. Lui, il travaille avec les jeunes de l'organisation, puis il remarque que les jeunes qui ont vécu de l'adversité, là, ils vont faire des meilleurs pros.
Ah, c'est clair.
Puis ceux qui n'ont pas vécu, ça veut pas dire qu'ils feront pas des bons pros. Tu sais, il y avait pas de loi de statistique, c'était ses impressions personnelles. Sauf que lui, ce qu'il constate, c'est que les jeunes qui en ont pas vécu, eux, les formateurs, les ceux qui les soutiennent, ou le coach junior, peu importe, ont de la misère avec ces gars-là. Quand ils sont contrariés.
Stéphane Leroux a dit la même chose.
Ils deviennent un peu désagréables.
Les gars d'équipe Canada Junior ont été retranchés. Pour la première fois depuis longtemps, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont passés directement devant les journalistes. On parle à personne. Stéphane Leroux dit « J'ai jamais vu ça de ma vie ». Il dit « C'est arrivé une fois qu'un gars le fasse pas, puis c'est jamais arrivé. » Les gars, c'est la première fois qu'ils se font couper quand ils sont rendus avec l'équipe nationale.
C'est 12 fois, j'ai dit, mais c'est le syndrome du premier classe. C'est comme ça aussi dans les entreprises, c'est comme ça un petit peu partout. Mais au hockey, c'est pire parce que t'as 19 ans puis t'es dans le public, tu sais, si tu travailles dans une entreprise normale chez Starbucks ou au bureau en gros,
c'est plus facile de te cacher d'une business loin du public que ça glace avec le Canadien de Montréal.
Au pire, tu démissionnes, ça va ailleurs. Là, ils ont nulle part où aller, ils ont nulle part où se cacher. Là, c'est très important. Le Canadien, là, avant de repêcher ses joueurs, il leur fait faire des tests psychologiques. C'est relativement nouveau, là, je pense, ça fait 2 ans. Tu sais, il y a plein de questions comme ça sur l'adversité puis comment tu réagis en cas d'adversité. C'est clair, là, je veux dire que ceux qui ont traversé des moments difficiles sont mieux équipés dans la vie que ceux qui ont toujours tout eu plutôt facile. Ça, c'est évident.
Ouais. Mais le test psychologique, ça fait 2 ans. J'ose croire qu'il y en avait un avant. Sinon,
je suis pas sûr que c'était sur le pif.
C'est intéressant.
Oh, he's really big. I love him.
Non, mais c'est intéressant. Puis je vais faire bientôt une chronique là-dessus. Mais ça s'est vraiment raffiné depuis 2016, les tests. Notamment, il y a une étude ensuite qui a été publiée sur les capacités cognitives des joueurs de hockey. Et je suis convaincu que les équipes de la Ligue nationale portent beaucoup attention depuis 2 ans à ces études-là qui montrent qu'il y a 3 aptitudes, là, puis je ferai pas un long discours, mais il y a 3 aptitudes, en tout cas cognitives, qui font en sorte que les joueurs se développent mieux que les autres joueurs, puis c'est sûr que le Canadien, dans ses tests, il va chercher ça, c'est clair.
Il y a un consultant qui est même engagé, tu sais,
c'est un prof de l'Université de Montréal.
Ben c'est ça, justement, je pense que le personnel hockey a compris qu'il y avait certaines de ces questions-là qui dépassaient leur champ de compétences.
En même temps, je peux pas croire que quelqu'un qui arrive avec un beau questionnaire tout ficelé, avec la meilleure théorie au monde, qui a jamais joué du sport compétitif, et le gars qui va prendre une décision pour ton équipe de hockey,
je rappelle
qu'on vient de me donner de l'info, tu veux tout toutes les infos. Non, mais j'espère que celui qui décide... En tout cas.
Ben, oui, non, celui qui décide, c'est Marc Bergevin. Ça, il me l'a confirmé. Mais c'est même lui qui va passer même au-delà de Trevor Timmons, surtout pour les choix de première ronde. Maintenant, ça fait partie des outils. Puis, il est arrivé depuis 2-3 ans que, par exemple, des thérapeutes, des physiothérapeutes qui font des études longitudinales, là, sur le physique, leur disent, lui, touche-y pas parce que, genre, il est arrivé ça à 16 ans. Puis les gars de 16 ans à qui il arrive telle blessure, ils se développent pas par la suite. Ils ont pris des décisions à partir de ça, le Canadien.
OK. Des blessures physiques.
Oui.
Il faudrait, ouais. J'espère qu'on investigue des blessures psychologiques aussi, quoique ceux qui s'en remettent parfois ouais. deviennent de grands athlètes.
Mais c'est délicat parce que souvent à 16-17 ans,
tu ne révèles pas tout de ce que tu as vécu.
Ce n'est pas diagnostiqué, non, c'est ça. Alors qu'on le voit plus tard, oui, à 24-25 ans, ils les ont sous eux. Mais tu sais, un jeune, par exemple, qui fait une dépression à 15, 16 ou 17 ans, là, c'est souvent caché, là. Je veux dire, c'est comme, hop, le kid, il y a une blessure X, puis c'est pas dit, là.
Il y a une chose qui est certaine pour, et vous aussi, là, on est en contact avec des gens qui travaillent dans le monde du hockey. Les jeunes qui le repêchent, là, ils les découvrent en les regardant grandir, là. Tu sais, peu importe exact. Les questionnaires, ben oui, là, ben je veux oui, dire, oui. T'apprends à connaître quelqu'un vraiment sous les feux de la rampe, puis
ben, en fait, les jeunes que tu repêches à 18 ans, regarde-les 5 ans plus tard, puis refais une liste, et je veux dire, c'est absolument différent. Là, ceux qui sortent premiers ne seront pas les premiers 5 ans après. Tu sais, à la presse, on fait cet exercice-là, on prend les 17 meilleurs de 17 ans pour chaque année. Un an après, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on vérifie où est-ce qu'ils en sont à leur point. Là, je suis en train de faire l'exercice pour ceux de l'année dernière, puis il y en a là, qui sont dans le top 17.
Ils ne seraient jamais
dans le nouveau top 17. Mm-hmm. Là. Jamais. Là. Je veux dire, à l'inverse, il y en a qui étaient 25, 26e, puis qui ont une super bonne saison. Là.
Ailleurs dans la Ligue nationale, les gars, puis je voulais revenir sur des sujets qui touchent le Canadien, gênez-vous pas. Je sais pas comment on aurait analysé la décision des Devils de mettre de côté l'attaquant Taylor Hall pendant 2 matchs. Et à Montréal, on avait fait ça avec un joueur en vue dans le but de le soumettre à une possibilité de transaction et par la suite dire, finalement, reviens joindre l'équipe. Je sais pas qu'est-ce qu'on dirait du Canadien, mais les Devils l'ont fait. Que pensez-vous de cette façon de faire?
Honnêtement, je vais commencer. Moi, je comprends très bien. Je pense que Taylor Hall est quelque chose d'intéressant pour l'ensemble des formations de la Ligue nationale de hockey. Si la transaction n'a pas été complétée jusqu'à maintenant, là, quand on se parle, c'est que, assurément, les Devils sont extrêmement gourmands. On veut beaucoup pour les services de Taylor Hall. Je suis pas convaincu que tout le monde, avec la parité présentement dans la Ligue nationale, c'est pas tout le monde qui est disponible à se vider pour essayer d'aller chercher Taylor Hall. Mais je trouve que ça lance quand même un drôle de message à l'équipe. Tu sais, t'as un club, t'as congédié ton coach, t'amènes Alain Nasreddine là-dedans, t'espères qu'il y a quelque chose qui va du moins changer un peu, avoir une attitude plus positive, tu pognes ton meilleur joueur, tu le mets dans les estrades, puis tu l'échanges pas. Mm-hmm. Ben, moi, à la limite, si tu le mets dans les estrades, tu l'échanges, j'ai rien à dire. Mais là, il est pas échangé. Là.
Ben, moi, je pense que c'est une grosse distraction, là, Taylor Hall, là, puis tout le monde le dit. Tous les gens qui ont joué avec lui disent que c'est une nuisance. L'autre chose, les Devils sont derniers de leur division. Après ça, ils viennent de jouer 2 matchs sur la route, donc aucune obligation de plaire aux fans. Moi, sérieusement, je pense que c'est la bonne décision qu'ils ont faite de l'asseoir.
Ils ont gagné.
Ouais, en plus, mais tu sais, qui gagne ou qui perd sérieux, rendu là, les Devils.
Ben oui.
C'est franchement
c'est
pas grave.
Fini,
puis t'as quand même le risque qu'ils se blessent. Écoute, c'est une des seules valeurs, un des seuls joueurs pour lesquels ils peuvent vraiment avoir, évidemment, Nico Hischier, là, mais jamais de côté, là. Mais c'est un des seuls joueurs vétérans qui peuvent échanger puis vraiment avoir quelque chose d'important en retour. Il y a une surenchère dans la ligue présentement. Écoutez, on parle présentement de ce qu'on attend. Un gardien de but jeune, un espoir de premier plan, des choix repêchage plus un défenseur établi. C'est énorme, là, je veux dire. Pour vrai, s'ils réussissent à voir ça, chapeau.
Pour un gars à risque.
Ouais. Moi, il y a une chose que je me demande derrière la stratégie des Devils, par contre. Elliot Friedman a sorti des informations intéressantes sur ce que les Coyotes, parce que bon, les Coyotes, selon plusieurs, seraient les favoris pour aller le chercher. Mais les Coyotes ne veulent pas donner leurs deux derniers premiers choix, qui sont Barrett Hayton en 2018 et Victor Soderstrom cette année. Je me demande s'il n'y a pas une stratégie derrière ça pour peut-être faire monter les enchères, c'est-à-dire
donner
l'impression
quelque
que quelque chose est imminent pour faire activer peut-être des équipes avec qui tu as eu des discussions préliminaires, qui hésitent un peu, tout ça. Puis là, oh, OK, il laisse de côté. Ça,
c'est, oui, oui. Moi, je me demande si c'est pas un petit coup.
Il y a peut-être un petit côté stratégique quand même derrière ça.
C'est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce coup de poker-là fait par les deux. Ils n'ont rien à perdre. Cette équipe-là n'est pas bonne. Elle ne sera pas bonne cette année. Ils essayent. C'est clair qu'ils vont tanker.
Le gars ne doit pas avoir une attitude incroyable, j'imagine, dans les
circonstances. Moi, je me trompe. Les Devils ont eu le premier choix au repêchage.
Ils ont 3 premiers choix repêchage dans leur équipe. Ouais. Taylor Hall, Isher, puis Jackie.
Non, mais juste dire qu'on a perdu beaucoup de salive, nous, ici à Montréal, à parler des premiers choix au total. Puis ça se fait qu'on repêche pas.
Dit, ils sont bons.
Ils en ont 3, ils sont pas bons présentement. Puis un des bons joueurs, ils le mettent dans les estrades.
Ben, ceci dit, moi, je trouve que c'est 3 bons joueurs de hockey. Le gros problème des Devils, c'est leur profondeur. C'est encore pire qu'à Montréal. Ils n'ont rien après ça. Mais...
C'est bon ce que tu dis là, parce que quand on se met à analyser une autre équipe, je le répète souvent, quitte à être redondant, c'est que mettez-vous à analyser chaque équipe aussi scrupuleusement qu'on analyse le Canadien. Là, il n'y a pas beaucoup d'équipes parfaites dans la ligue. Ben, il y en a, oui, là, que c'est un peu plus
vert. Il y en a, mais il y a d'autres équipes.
Non, mais ceci dit, là, tu sais, fans du Canadien, là, prenez bien conscience de ça. Là. Les Devils, ils ont 3 premiers choix au total des 10 dernières années, puis c'est le pire club de la conférence.
Ils ont piqué en plus.
Ils ont piqué, mais c'est le pire.
Bon Dieu.
Et 2 jeunes gardiens qui sont presque rien payés, là, mais. Je dis, mais regardez, là, tu sais, nous,
Edmonton,
c'est ce qu'on...
Toronto.
Non, mais nous, c'est ce qu'on a...
Si on va en rajouter, là, je pense que le problème est dans le filet. Tu comprends-tu? Dans le filet, ils ont de la misère, les Devils New Jersey. Fait que si on dit tout le temps, on n'est pas obligé d'avoir le meilleur gardien pour gagner des matchs. Non, mais... C'est parce que ça l'aide aussi. Ça l'aide quand t'as un bon gardien.
Oui, tu sais, puis moi, je reviens, là, reconstruire, là, puis ah oui, hey, on va aller chercher 3 choix, des 3 premiers choix au Toto. Puis tu regardez ce qui se passe à New Jersey. Ben non, ils sont vraiment pas sortis, puis... Je ne sais même pas à quel point
il y en a pas de recette magique. Il n'y en a pas de recette magique. Il faut vraiment que tu crois à ce que tu fais, là. Puis tu vas te tromper même quand tu crois à ce que tu fais. Mm-hmm. Mais juste en complément sur la discussion Hall, moi, j'en voudrais pas aux Canadiens pour aller chercher Taylor Hall. J'y crois pas à Taylor Hall. Si tu me l'amenais, je serais bien content de le voir jouer, voir qu'est-ce que ça donnerait, mais je sacrifierais pas beaucoup de billes pour lui. Mais je suis convaincu que dans les circonstances semblables, si t'avais pu avoir un Mark Stone, il serait allé. Tu sais, parce que dans le fond, avec la possibilité de le signer, je parle pas de l'avoir juste, deux mois en,
Le problème, c'est le comportement de Taylor Hall. Au niveau du c'est sûr que le Canadien
y en a.
Puis c'est pas ça qui va jouer. Là,
un gars qui joue, qui est sur toute une lancée, qui connaît toute une saison, les gars, c'est Anthony Duclair, deuxième étoile de la semaine, après Max Pacioretty, quand même, on n'allait pas passer ça sous silence. Ça va bien pour Max avec les Golden Knights.
Il est 11e pointeur de la Ligue nationale. Ben oui.
Exactement. On verra ce que ça va donner quand ça va compter.
Mauvaise transaction de Marc Bergevin.
Donc, Anthony Duclair, les gars, moi, je vous demande, est-ce qu'il va être autonome,
joueur autonome
sans compensation?
Non, avec compensation.
Il est encore trop jeune.
Ouais, il est trop jeune encore. Ok, excusez, là, mais... j'entends des voix. Mais on va être sûr. C'est vrai qu'il est jeune, mais il y a des situations contractuelles qui font qu'un gars peut être libre plus vite.
Non, lui, c'est avec restriction, mais c'est un cas qui est vraiment intéressant, hein, parce que il y a déjà plus de points, je pense, que contre tous les gars contre qui il a été échangé.
18 buts, 7 passes, 25 points et John Tortorella prend note de ça, plus 2. Il y a pas mal de joueurs dans les moins à Columbus, puis lui, il ridiculisait publiquement presque en disant qu'il comprendra jamais rien. Mais ça a l'air qu'il a compris
des affaires. C'est très connu dans la Ligue, c'est un joueur qui a un problème, qui avait en tout cas au minimum un problème de maturité immense là pour son âge. Là, ça, c'était clair.
Qu'est-ce que ça impliquait?
Ben, je pense que c'est un joueur qui était très individuel puis qui était pas coachable. C'était un petit peu ce qu'il se disait. Et je pense qu'en fait, l'équipe d'entraîneurs à Ottawa mérite beaucoup de crédit pour ce qui est en train de se produire. Là. Et il est rendu à quoi? Sa 5e ou 6e équipe?
Rangers, Coyotes, Chicago, Columbus. Donc, Ottawa, c'est la 5e. Puis il a été repêché en 2013. Il a été repêché il y a 6 ans.
Donc, crédit ici à l'équipe d'entraîneurs des Sénateurs qui, par ailleurs, fait un très bon travail. Si on se rappelle, il y a un an, les Sénateurs, l'incident du taxi, il y avait beaucoup de négatifs autour de cette équipe-là et on n'entend plus de mauvaises choses là, depuis les changements d'entraîneur à Ottawa.
Peut-être un dernier sujet, les gars.
Ce que je voyais sur Cap Friendly, c'était qu'il était joueur autonome sans compensation UFA, Unrestricted Free Agent. Donc, avec ce contrat d'une saison de valeur d'1,2 million.
Ça fait quand même. Il est dans la ligue depuis 2014.
Tes lignes, moi, je l'ai avec compensation.
Ah, je vais mettre mes lunettes. OK, avec compensation.
Bon. C'est réglé, les boys.
Sûrement. Bon.
Correct. Est-ce que vous prendriez Kovalchuk pour une bouchée de pain pour la fin de l'année?
Non.
Moi, je serais curieux de le voir.
Okay, regarde-moi, je pense que.
Pour 700 000,
arrête.
Tu veux de l'aide, Jérémy. Trouve-moi de l'aide que tu peux avoir.
Mais c'est-tu du temps de glace qu'il faut que tu donnes à Kovalchuk s'il vient
avec les Canadiens? Ça dépend. Moi, je pense que c'est un joueur qui a un talent offensif, qui pourrait aider l'avantage numérique. Mais il y a un gros. Puis je pense que c'est un bon coéquipier. Hein. Oui. Tout ce qu'on attend de la
Mario Tremblay a travaillé avec. Tout le monde n'a que du bien.
Je pense maintenant il y a un très gros problème. En fait, c'est son jeu défensif. Je pense honnêtement que c'est le pire joueur défensif de la Ligue nationale de hockey. Dans une équipe qui, présentement, le Canadien a eu beaucoup d'attaques quand même depuis le début de l'année.
Non, mais Jordan Wheel ou Ilya Kovalchuk pour 3 mois sur le powerplay à droite. Je sais pas, là.
Tu donnes l'exemple majeur.
Mais c'est pour ça que tu vas le chercher.
C'est quand même un gars qui a un point par 2 matchs en moyenne.
Ça va te coûter quoi? Ça te coûtera
rien. Sur l'avantage numérique, c'est pas
la pire. J'ai Jordan Wheel, j'essaie-tu Kovalchuk?
Mais Mario, le problème, c'est qu'à 55, à mon avis, tu peux pas le mettre. Il est trop faible à 55.
D'accord,
c'est
ça.
Mais en avantage numérique, si tu joues à 11 attaquants à 55, c'est une possibilité. Mais c'est un gros gamble.
Mais non, il nous a donné une popée minute de podcast,
tu sais. Je pense que l'époque des spécialistes, disons comme ça, c'est ouais, peut-être révolu.
Ben, oui, mais regarde James Neal. Quand même, ouais. Ce gars-là.
J'ai fait de mon possible pour prendre le sujet, les gars.
Claude Julien, il aime vraiment ça, jouer à 12 attaquants monde, et 3 défenseurs.
Tu le dis, tout son monde. Sauf les deux derniers défenseurs.
OK, les gars.
Et son deuxième gardien.
Demain soir, Canadiens contre les Canucks à Vancouver. Jeudi contre les Flames à Calgary. Samedi contre les Oilers à Edmonton. Je mets les trois matchs en...
On ajoute Winnipeg. On ajoute Winnipeg.
OK, même si on va faire un podcast. Winnipeg, lundi soir, combien de points pour le Canadien sur ces 4 matchs à l'extérieur? Allez, mes optimistes. Je vous écoute, mes optimistes.
2 victoires, 2 défaites, je vais être plat.
Ouais. OK, moi je vais. Écoute, c'est 8 points. C'est un total de 8 points que ça fait. Là.
Ouais.
4. Okay. Je vois comme toi. 4.
Les gars, vous amenez ça, la poire en bœuf, en 2.
C'est
bon,
c'est
pas
c'est du sincèrement.
C'est difficile à dire. Oh, je pensais être plus dur que ça. 2 ou 3.
Oh, okay, t'es pessimiste.
Ouais. Okay. Lis mon texte à matin, Alex.
OK, il est lu, mais tu sais quoi?
D'accord.
Non, mais les stats sont faites pour être changés.
Les gars, j'espère que vous venez les stats de mes prédictions. Je suis trop fort pour la ligue.
Ah oui?
Puisque personne n'a les stats, je peux dire ça. Fait que moi, je vais y aller avec un 5 points sur 8. 5 points sur 8. Ouais, un élan, l'esprit des fêtes, les gars. Okay. J'ai fait mon sapin.
Ah, ben là, t'es heureux.
Ouais, moi, je l'ai pas fait. C'est pour ça. 3 points.
Je trouve qu'il manque de. C'est mes enfants qui sont chargés de mettre les boules. J'ai dit, quand les lumières sont pas allumées, les enfants, il me semble qu'ils chenuent pas mal le sapin. Ben, il est beau de même, papa. OK, d'abord. Hey, salut tout le monde. Je sais pas ce que le sapin vient faire là-dedans, mais j'avais commencé avec ça. Il fallait bien que je finisse. C'était sorti de. Ron dirait sorti de Zozone, mais c'est sorti de Zone. Salut tout le monde. À bientôt.